Le coup d'état de Chéri Bibi, chapitre 25. Des découvertes que fit Madame Hilaire en se promenant dans sa cave et de ce qui s'ensuivit. Mais il arriva un jour, le jour justement de la première charrette, que messieurs Polidore et Jean-Jean furent absents dans le même temps que Monsieur Hilaire. Virginie alluma aussitôt une lanterne, se fit ouvrir la trappe et descendit l'escalier à pic qui menait à ce sombre mystère. Le désordre qui y régnait était inimaginable. Les caisses avaient été bousculées, certaines éventrées. Le vin avait coulé des fûts, humectant le sol à faire croire à une crue extraordinaire de la Seine. Un tonneau de petit vin d'Anjou, mousseux, était vide. Un baril de harengsort répandait à demi son contenu sur ce sol fangeux. Des jambons fumés avaient disparu, ou plutôt les os qui en restaient disaient assez qu'en dépit des bons repas de la salle à manger et des encas nocturnes de Monsieur Hilaire, Messieurs Polidore et Jean-Jean avaient satisfait sur eux leur incroyable boulimie. La lanterne, les soupirs et les sourdes exclamations d'horreur de Madame Hilaire se poursuivaient au milieu de tout ce ravage, quand soudain, un bruit de voix se fit entendre du côté de la réserve. Madame Hilaire s'arrêta, tremblante. Qui donc avait parlé? Elle écouta encore, mais en vain cette fois. Cependant, il n'y avait pas d'erreur. La chose était bien venue du fond de la cave, qu'une simple cloison de planches, fermée d'une porte épaisse, séparait de la réserve. Madame Hilaire dut comprimer, d'une main lourde, les battements de son cœur. Elle se glissa, avec des précautions infinies, jusqu'au fond du mystérieux souterrain. Contre la porte de la réserve, on avait roulé deux grosses barriques, pour empêcher de passer. Chut ! De nouveaux murmures. Un soupir qui ne part pas de la gorge de Madame Hilaire. Une voix de femme. Vierge sainte ! Monsieur Hilaire cache une femme dans la réserve ! Tout s'explique. Les encas, toutes les douceurs que Monsieur Hilaire transporte dans la cave, tout cela n'est nullement destiné à Polidore et Jean-Jean, qui, elle a pu le constater, hélas, se rattrape par ailleurs. Non, toutes ces douceurs sont pour la femme. Quelle femme? Une maîtresse de Monsieur Hilaire, en fer et damnation. Une de la haute, sans doute, puisqu'elle se cache comme une suspecte. Monsieur Hilaire a toujours eu du goût pour les femmes de la haute. Son dévouement à Madame la marquise du Toucher a paru souvent inexplicable à Madame Hilaire. Et il faut que Monsieur Hilaire y tienne à cette femme qui est dans la réserve, pour qu'il la fasse garder par ces deux monstres, par ces deux dogues insatiables qui lui coûtent les yeux de la tête et ruinent son commerce. Ah, en vérité, voilà donc toute l'histoire. Si Madame Hilaire ne reconnaissait plus Monsieur Hilaire, qu'y avait-il d'étonnant à cela? C'était cette femme qui le lui avait changé. C'est pour elle que Madame Hilaire avait tant souffert. Pour elle qu'elle avait été humiliée, menacée, froissée, ridiculisée devant tous. C'est à cause de cette femme que Madame Hilaire n'était plus maîtresse chez elle. Eh bien, on allait voir. Résolue à se venger d'une façon éclatante, et sachant que la vengeance est un plat qui se mange froid, l'épicière se hâta de regagner, sans faire le moindre esclandre, la lumière du jour. Tout à coup, Papa Cacahuète fit son entrée. Monsieur Hilaire n'était pas encore arrivé. Papa Cacahuète alla saluer Madame Hilaire et lui annonça que, passant par l'hôtel de ville, il avait appris avec joie que Monsieur Hilaire venait d'être nommé inspecteur des prisons. « Mes félicitations, madame, » ajouta-t-il. « Tous les jours, votre mari monte en grade, acquiert une nouvelle fonction. La Révolution rend hommage à ses grandes qualités de cœur et d'esprit. » « C'est bien parlé, » approuva Jean-Jean qui venait d'arriver et qui avait entendu. « Nous fêterons ce soir cette bonne nouvelle. On débouchera une ou deux bouteilles de champagne. » Et on videra un flacon de vieux rhum de la Martinique, ajouta Polidore. Madame Hilaire baissa les yeux pour ne pas montrer tout le courroux et toute la haine dont ils étaient pleins. Tous ces misérables étaient les complices de son mari. Enfin, l'épicier arriva et reçut sans trop d'étonnement la nouvelle de son élévation à une dignité aussi importante que celle d'inspecteur des prisons, dans un temps où elles étaient pleines. Le vaniteux commençait déjà à se faire aux honneurs. Une autre nouvelle, apportée par son ami, le nouveau Bougnat, l'homme aux joues noires et aux mains blanches, parut le toucher davantage. Il frissonna de tout son corps en entendant M. Frédéric raconter avec une émotion nullement feinte la peine qu'il avait éprouvée en apprenant, quelques minutes avant son arrivée, que son prédécesseur, le brave Bougnat qui lui avait si aimablement passé son fonds, planches de sapin, lattes et houilles, avait été trouvé mort le matin même rue de Turenne avec un grand couteau planté dans le dos. Ce brave homme était depuis longtemps un ami de M. Hilaire, et nous savons le service qu'il lui avait rendu le jour où le commissaire de la section de l'arsenal s'était occupé de mettre en lieu sûr la famille du Touchet. N'était-ce point terrible de se voir récompensé de ce service-là par un coup de couteau? Peut-être avait-il laissé échapper une parole imprudente, malgré les recommandations extraordinaires de M. Hilaire. Peut-être ce coup de couteau n'était-il que précaution? Oh, abominable, épouvantable, chéri Bibi! Sur ces entrefaites, survint à son tour, bien pâle et bien défait, ce pauvre monsieur Barquimel. Il sortait du tribunal révolutionnaire et avait rencontré en route un collègue, lequel avait assisté à la cérémonie de la place de la Révolution et lui avait raconté comment était mort Tissier, l'ex-vice-président de la Chambre, condamné par M. Barquimel. « Il n'y a pas à dire, » exprima celui-ci avec une certaine mélancolie. « Ça fait quelque chose de se dire qu'on a fait tomber la tête d'un homme. Un homme qui, tout à l'heure, respirait comme vous et moi, parlait et tournait la tête. « Ha ! Tourner la tête ! Bravo pour tourner la tête ! Vous avez trouvé ça tout seul, tourner la tête. Évidemment, maintenant il ne peut plus la tourner. » C'était l'horrible Mazeppa qui arrivait. M. Barquimel, qui était cependant au courant des nouvelles mœurs hospitalières de M. Hilaire, n'avait pas encore eu l'occasion de se trouver en face de ce nouveau pauvre. Il recula épouvanté. Mais le père Cacahuète sortit soudain de son rêve pour présenter le jeune Mazeppa. « Mon secrétaire » ajouta-t-il avec un rire inattendu qui lui racla la gorge et qui effraya les autres autour de lui, plus que tout le reste. Il pénétra le premier dans la salle à manger et on l'entendait rire encore là-bas, tout seul. Et de quel rire ! Monsieur Hilaire lui-même en était tout pâle. Quant à M. Frédéric, le Bougnat à la manque, il s'enfuit après s'être excusé auprès de Mme Hilaire de ne pouvoir accepter son invitation à dîner pour ce soir-là. Mme Hilaire se disait en elle-même, tout au fond de sa malice avertie par sa récente découverte, « Jouez bien la comédie, mes bons hommes, il va falloir s'expliquer tout à l'heure. » Et elle entra dans la salle à manger en donnant le bras à M. Barquimel et semblant ignorer tous les autres convives. « Je ne sais pas ce qu'a Madame Hilaire aujourd'hui, » prononça la voix éraillée de chéri Bibi, qui était déjà attablée comme un malotru. « Mais elle a un petit air qui lui sied à ravir. » Madame Hilaire ne broncha pas. Elle attendait son tour. La conversation roula dès l'abord sur la nouvelle de l'arrestation du baron d'Ascoff, que publiait en dernière heure le journal des clubs. Et là-dessus, le père Cacahuète s'étonna de ce que l'on continuât à ignorer la retraite où se cachait la famille Touchet. « Elle ne doit pas emmener large, la belle marquise !» exprima Virginie. « Elle qui faisait tant la fière qu'on n'osait pas lui adresser la parole. Où peut-elle être maintenant ? Elle aura peut-être trouvé quelqu'un comme tant d'autres pour la cacher dans sa cave. » À l'audition de cette phrase prononcée d'une voix agressive, tous les appétits restèrent suspendus. Hilaire frémit, ce qui n'échappa point à Madame Hilaire, laquelle jouit de ce trouble avec une férocité à peine dissimulée. Polydore et Jean-Jean se regardèrent. Papa Cacahuète pria Mazeppa d'aller lui faire une course et de ne revenir que lorsqu'il le sifflerait. Puis il toussa, leva ses lunettes noires sur Madame Hilaire et lui demanda d'une voix qui tremblait un peu. « Que voulez-vous dire, Madame Hilaire ? Il faudrait vous expliquer. »« M'expliquer ? » repartit la maîtresse femme, déjà rayonnante de l'effet produit. « Est-il besoin de m'expliquer ? Monsieur Hilaire sait parfaitement ce que je veux dire. »«
Moi ?»
protesta l'innocent Hilaire. « Mais j'avoue que je ne comprends même pas pourquoi papa Cacahuète s'étonne de ce que tu viens de dire. Évidemment, cette dame peut être cachée dans une cave ou dans un grenier. »«
Cave ou grenier ?» s'écria Madame Hilaire. « Ce n'est pas moi qui la plaindrai. Et si jamais on la pince, cette pimbèche, avec sa mijaurée de Lydie et sa vieille hypocrite de Jacqueline, je serai la première à crier bravo. »
« Vous la détestez donc bien ?» demanda la voix sourde de Chéri-Bibi.
« Je vais vous expliquer, » intervint Monsieur Hilaire.
« Chut !» gronda la voix de Chéri-Bibi. « Chut, Monsieur Hilaire, n'interrompez pas Madame Hilaire, ça ne se fait pas dans le monde. »«
Oh, sur ce chapitre, nous n'avons jamais été d'accord, » continua Madame Hilaire. « Il a beau être maintenant tout ce qu'il vaudra, » Monsieur Hilaire regrette certainement le temps où il était le domestique de ces gens-là. Il me l'a dit, et il ne le niera pas. Et ça se dit républicain, révolutionnaire et tout le tralala. Moi, je ne suis qu'une femme du peuple, et j'ai plus de rancune.
« En voilà assez !» s'exclama Monsieur Hilaire.
Mais Virginie continua de glapir.
« Penses-tu, il la saluait toujours jusqu'à terre ?» On aurait dit qu'il en était amoureux, ma parole. Si ça n'était pas à vous faire suer, sans compter qu'elle n'était pas meilleure qu'une autre, la Cécilie. On a assez parlé d'elle à Dieppe quand elle avait ses rendez-vous, jusque dans les églises, avec le vicomte de Pontmarie.
Là-dessus, il y eut un silence. Quel silence! D'abord, la parole de Madame Hilaire semblait avoir frappé Monsieur Hilaire à mort. Il ne remuait plus, ne donnait plus signe de vie. Soudain, une voix doucement éraillée, celle du marchand de cacahuètes, fit entendre
« Je vois que vous ne l'aimez pas. »«
Ah non !» explosa Virginie. « Tenez, puisque je ne peux pas espérer qu'elle sera ma femme de chambre, je ne lui souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit prise, jugée et guillotinée. »
Un bruit de vaisselle cassée souligna aussitôt l'importance d'un pareil souhait. C'était papa Cacahuète qui venait de dégringoler sous la table avec son assiette. Papa Cacahuète avait cette habitude de manger souvent sous la table, comme un chien. Il se trouvait ordinairement à son aise, le derrière par terre, et ne se mêlant le plus souvent à la conversation que par des grognements. Mais cette fois, on ne l'entendit pas grogner. Monsieur Barquimel voulut rompre un silence redevenu insupportable. « Madame, vous êtes une vraie citoyenne. Je puis vous dire à vous une chose qui vous réjouira. On est sur le point de découvrir la retraite de la marquise du Touchet.
« Il y a donc un bon Dieu !» déclara Virginie.
Quelque chose remua sous la table, et Monsieur Hilaire, pour prouver peut-être lui aussi qu'il n'était point tout à fait réellement mort, fit un geste sur sa chaise. Messieurs Polydore et Jean-Jean se balancèrent sur la leur.
« Oui, » expliqua Monsieur Barquimel, « la chose s'est passée en fin d'audience au tribunal révolutionnaire. On nous avait apporté à juger une petite ouvrière blanchisseuse qui n'était pas plus blanchisseuse que moi et qui n'est autre que la baronne d'Ascoff, la femme de l'ami du subdamoun qui lui-même a été arrêtée au café Werther. La baronne d'Ascoff, dont nous devions régler immédiatement le sort, et qui avait peur naturellement d'être condamnée à mort et exécutée dès demain, nous a demandé si nous lui accorderions la vie sauve dans le cas où elle nous mettrait en mesure d'arrêter la marquise du Touchet, mère du sub d'Amoun. L'accusateur public prit sur lui de lui promettre ce qu'elle demandait si ses indications étaient sérieuses. Alors elle nous dit que la blanchisseuse qui l'avait recueillie, elle, la baronne, et cachée à tous sous cet accoutrement, était l'ancienne blanchisseuse de la marquise, et que cette blanchisseuse avait reconnu une chemise de la marque dans le linge que lui avait donné récemment une cliente. À ces mots, M. Hilaire parut se trouver mal sur sa chaise, et puis tout à coup poussa un cri perçant. On s'inquiéta. « Oh, ce n'est rien, » dit-il. « C'est passé. Un pincement au cœur. » La vérité était qu'il venait d'être bel et bien mordu à la jambe par cette chose qui était sous la table. Il mesura du coup la gaffe qu'il avait commise en glissant dans le linge de la maison une chemise de la marquise, et il comprit aussi que si cette gaffe avait les conséquences redoutables qu'il fallait dès maintenant prévoir, ce n'était pas sa femme qui serait dévorée par cette chose qui était sous la table, mais lui-même, M. Hilaire, tout commissaire de section et inspecteur des prisons qu'il était. M. Barquimel, qui ne s'apercevait point du drame que ses paroles déchaînaient à ses côtés, continuait. L'accusé donna le nom et l'adresse de la blanchisseuse, rue aux Phoques. « Rue aux Phoques ? » s'écria Virginie. « Mais c'est notre blanchisseuse !» L'affaire fut un instant suspendue, reprit M. Barquimel, pendant qu'on envoyait là-bas le commissaire aux délégations judiciaires. Ce magistrat revenait bientôt nous annoncer qu'on avait trouvé la blanchisseuse de la rue aux Phoques, pendue à l'espagnolette de sa fenêtre. « Hein ? Qu'est-ce que vous dites de cela ? Croyez-vous que ça se complique ? Il avait d'abord cru à un suicide à cause d'une lettre d'amour trouvée près du cadavre, mais il n'avait pas eu de peine à reconstituer le crime. Encore un coup des amis du sub d'Amoun, qui avaient dû être avertis qu'on était sur la trace de la mère de leur idole. Ces gens-là ne reculent devant rien. Et qu'est-ce que vous avez fait de la baronne d'Ascoff ? Eut encore la force de demander M. Hilaire, lequel s'était pris à suer à grosses gouttes. « Eh bien, » reprit M. Barquimel, « nous nous disposions à la condamner à mort, puisqu'elle ne nous avait servi de rien, quand elle s'écria qu'elle se rappelait parfaitement les initiales du linge de la pratique, au milieu duquel on avait trouvé la chemise de la marquise. Ces initiales étaient... » Mais il ne put en dire davantage. Un fracas effroyable éclata tout à coup dans la salle à manger. La lourde table avait été renversée d'un seul coup avec tout ce qu'elle supportait de vaisselle, de verrerie et de couverts, et était retombée sur les pieds de M. Barquimel, qui se prit aussitôt à pousser des cris d'écorché. Et de toute cette confusion sortait Papa Cacahuète, qui s'excusait auprès de Mme Hilaire de s'être relevé un peu trop brusquement et d'avoir été ainsi la cause stupide de la catastrophe. M. Barquimel, dégoûté décidément d'un dîner où il n'avait trouvé aucun plaisir et où il s'était fait à peu près écraser les pieds, prit congé d'une façon assez maussade et gagna la porte de la rue, soutenu par le jeune Mazeppa, qui avait reçu l'ordre de le reconduire chez lui et de le veiller comme son père. De leur côté, sur un signe de Papa Cacahuète, messieurs Polidor et Jean-Jean avaient prétexté d'une grande fatigue pour descendre sans plus tarder dans la cave, où leur couchette les attendait. De telle sorte qu'il ne resta plus dans la salle à manger que Papa Cacahuète, Monsieur Hilaire et Madame Hilaire. Celle qui ne doutait plus de la personnalité que l'on cachait chez elle paraissait prête à éclater. La face congestionnée, la gorge furieuse, les poings sur les hanches, elle attendait un mot qui serait pour elle le signe de l'explosion. D'abord, Papa Cacahuète dit, après avoir refermé fort précautionneusement la porte, « Je ne crois pas que cet imbécile de Barquimel se doute de quoi que ce soit. Sans cela, il ne serait pas venu dîner ici, de peur de se compromettre, et il ne nous aurait pas raconté l'histoire. « Je ne le crois pas, en effet, » murmura M. Hilaire, qui tremblait de tous ses membres. « Comment voulez-vous qu'il s'en doute ?» commença d'éclater Virginie. « Mais moi, je n'ai plus rien à apprendre. » « Madame Hilaire, » interrompit papa Cacahuète en lui prenant le poignet dans l'étau de sa main de fer et en la faisant reculer jusqu'au fond de la pièce. « Madame Hilaire, je vous aime bien, car je ne saurais oublier que vous êtes la femme de mon ami Hilaire. Laissez-moi donc vous donner le conseil de crier moins fort quand vous parlez de votre cave. Savez-vous que c'est un bienfait inimaginable pour M. Barquimel que son imbécilité et l'ignorance où il est encore de ce qui se trouve dans votre cave? Ceux qui l'ont su, madame, en sont morts. Le bougnat qui a précédé M. Frédéric en est mort. Votre blanchisseuse en est morte. » Il la lâcha. Elle tomba sur une chaise, comme dégonflée tout à coup. Et elle regardait le diabolique bonhomme avec des yeux hagards. Maintenant, papa Cacahuète reprit un peu plus tranquillement. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous, maintenant, madame? Maintenant que vous savez cette chose-là. C'est un secret dont vous n'êtes plus maîtresse. Un geste, un regard peuvent nous trahir. Dans ces conditions, vous voyez bien qu'il faut disparaître. « Mon Dieu !» gémit M. Hilaire, qui n'était point méchant. « Mon Dieu, ayez pitié d'elle !» Virginie fit entendre un soupir d'agonisante. « Je vous donne la vie sauve, » continua le vieillard après réflexion. « Mais, je vous répète, il faut disparaître. Et la meilleure façon que vous ayez de disparaître, pour moi et pour tout le monde, est de descendre, à votre tour, dans votre cave, et de vous y enfermer avec la personne en question. Mais elle n'acheva pas. Le flamboyant regard noir avait brûlé sa suprême résistance. « Vous serez enfermée avec elle, madame Hilaire, et comme cette dame, dans le triste état où elle est momentanément réduite, a besoin de petits soins, vous les lui donnerez, vous les lui prodiguerez. Vous serez sa servante, son humble, son obéissante servante, et vous lui dénouerez les cordons de ses chaussures. Je crois m'être suffisamment fait comprendre. C'est tout ce que je puis faire pour vous. » Il tourna la tête et dit à Hilaire, « Mon ami, soyez donc assez bon pour mettre dans une valise tout ce dont Madame Hilaire peut avoir besoin pour son petit voyage. » Chapitre 26. À la conciergerie. La conciergerie servait pour lors de prison d'État et de dépôt provisoire des condamnés. Monsieur Florent, que la littérature révolutionnaire avait perdu, et le baron d'Ascoff y avaient été amenés, presque dans le même temps, si bien qu'ils se trouvèrent au greffe ensemble et furent envoyés ensemble dans une cellule où se trouvait déjà le fervent nationaliste qu'était le petit Gazo. Désespéré, M. Florent l'était. Il avait été arrêté dans le moment que, ne sachant plus à quel saint se vouer, il était allé porter lui-même un article plus incendiaire que jamais au journal des clubs. Il ne voyait plus désormais de borne à son infortune, et la station qu'il commençait dans ce mauvais lieu ne lui faisait que trop prévoir la fin prochaine de tout ceci, sans qu'il y comprît goutte du reste. Dès qu'on lui eut fait franchir ces sombres portes, il avait été désagréablement impressionné par le défilé des détenus appelés ce jour-là au tribunal révolutionnaire où les attendaient les nouveaux juges nommés par les soins de Coudry et des clubs. Déjà, on avait porté des coups terribles à l'ancienne magistrature. Toutefois, on avait osé toucher à un juge intègre et consciencieux, le président des assises, Dimier, qui joue un rôle assez court dans cette histoire, mais suffisamment important pour que nous fixions un instant sa figure. Une terrible affaire le mettait alors en pleine lumière, le procès des bandits du Nord, qui, après avoir mis au pillage la province, s'était abattu sur Paris dès qu'ils avaient appris que la capitale était en proie à la Révolution. Une imprudence dans l'extraordinaire cambriolage d'un musée fit mettre la main sur les principaux chefs de cette redoutable association. Or, certains eurent l'habilité de se dire les amis politiques de quelques gros bonnets de la Révolution et de menacer de le prouver. Amitié politique était beaucoup dire, mais il y avait eu certainement entre les uns et les autres de fâcheuses compromissions. Bref, deux accusés, Garot et Manol, s'en seraient certainement tirés si M. Dimier, qui ne connaissait que sa conscience, ne s'y était opposé et n'avait menacé le parquet d'un gros scandale. De leur côté, voyant qu'on ne les relâchait pas, Garot et Manol, bien que l'instruction fût close, commençaient à manger le morceau. Ils avaient été transférés à la conciergerie et demandaient à chaque instant à être entendus par le directeur de la prison, qui recevait leurs confidences et qui, en honnête homme qu'il était lui aussi, en faisait un rapport et le transmettait à qui de droit. On n'avait pas osé toucher à monsieur le conseiller Dimier, mais on avait fait sauter monsieur le directeur, qui avait été remplacé par une fameuse crapule, un nommé Mathieu Talbot. Homme à tout faire, il avait compris l'embarras de quelques-uns de ses anciens amis et avait laissé entendre que sous sa direction, Garot et Manol pourraient prendre de l'air, seul moyen d'éviter l'esclandre en cour d'assises. Quand M. Florent avait traversé la salle des gardes, il était passé devant deux petits escaliers étroits qui conduisaient chacun au premier étage de chacune des tours. Dans la tour de droite se trouvait le cabinet de M. le directeur et dans l'autre, le cabinet du président des assises. C'est dans ce dernier cabinet que venait de temps à autre, pour interroger les criminels, Monsieur le conseiller Dimier, l'honnête homme, bon juge, bon père de famille, noble caractère, orné de toutes les vertus et fort estimé de Chéri Bibi lui-même, pour avoir, au début de sa carrière, émis cette opinion dans son livre sur les erreurs judiciaires qu'il se pourrait fort bien que le célèbre et mondial bandit fût innocent du premier crime pour lequel il avait été condamné. Monsieur Dimier méprisait Monsieur Talbot, qu'il avait eu autrefois à juger, et Monsieur Talbot méprisait Monsieur Dimier de ce que celui-ci l'avait jugé, et acquitté, avec des considérants qui eussent déshonoré tout autre. Monsieur Talbot était persuadé qu'après l'affaire des bandits, il aurait la peau de Monsieur Dimier. Il s'en était même vanté trop haut un soir dans un café. Or, ce soir même, en se déshabillant, il avait trouvé dans la poche de son veston une demi-douzaine de cacahuètes enveloppées dans un cornet de papier sur lequel il put lire « Ne pas toucher à la peau de Monsieur Dimier ». Monsieur Talbot, qui ne connaissait point le langage des cacahuètes, n'avait rien compris à cette affaire, qui l'avait laissé quelques instants assez rêveur, mais qui ne l'avait pas empêché de dormir. Monsieur Talbot avait une ignoble face boutonneuse, toujours enflammée des récipèles et de petits yeux gris qui ne regardaient jamais en face. Monsieur Dimier avait une belle figure de marbre lisse, encadrée d'une magnifique barbe blanche. Son regard était doux au bon et dur au méchant. Chéri Bibi, qui adorait la vertu chez les autres, se serait fait tuer pour Monsieur Dimier, et n'aurait pas hésité une seconde à descendre au tombeau le vilain M. Talbot, pour peu que son intérêt l'y contraignît. Et nous verrons que l'intérêt de Chéri Bibi, en effet, le força bientôt à ne point rester neutre dans cette lutte où le président des assises tâchait de confondre deux criminels, où le directeur de la prison tentait de les faire évader, et où Chéri Bibi essayait de s'en servir pour leur substituer dans l'évasion, le commandant Jacques et le baron d'Ascoff. Sans avoir à anticiper sur les événements, il nous est cependant permis de dévoiler tout de suite que tel était le plan du marchand de cacahuètes, plan pour la réussite duquel il venait de faire nommer M. Hilaire, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, inspecteur spécial des prisons de Paris. La ruse seule pouvait permettre à Chéri Bibi d'espérer encore le salut du Subdamoun, ce fils bien-aimé pour lequel il aurait donné tout le sang de ses veines, celui de ses amis et aussi de ses ennemis. Dans un cachot, le Subdamoun était gardé avec un luxe de précaution inouï. Il avait toujours 4 gardes civiques avec lui et il y avait un peloton de 25 autres gardes devant la porte dans la galerie. Tout cela, naturellement, sans préjudice d'une véritable petite garnison que le nommé Talbot pouvait mobiliser en 5 minutes, et qui ne cessait, du reste, de parcourir la vieille prison et de lui donner cet air de résurrection qui faisait frissonner jusque dans les moelles ce bon monsieur Florent, lequel, confondant de plus en plus cette révolution avec l'autre, se croyait plus jeune d'un siècle et demi. Pauvre monsieur Florent. Que ce monsieur Daskoff, qui avait été de la bande du Subdamoun, et que ce monsieur Cazot, qui voulait remettre le roi sur le trône de France, se trouvassent au fond d'un cachot, il n'y voyait rien à redire. Au contraire, il trouvait cela juste. Mais que lui, qui ne s'était mêlé à la politique qu'une seule fois, pour faire l'éloge de l'état de choses triomphant et le panégyrique des hommes du jour, sous le pseudonyme du vieux Cordelier, fut réduit à cette misère, cela ne dépassait-il point toute imagination? Ayant reconnu dans l'un des nouveaux prisonniers le baron Daskoff, qu'il avait rencontré chez la belle Sonia, le petit Cazot ne lui cacha pas ce qu'il pensait du héros et de son aventure, et de l'enchantement où il était, lui, de ce que l'affaire eût si mal tourné, puisqu'elle avait été tentée en dehors de son roi. Askoff, très maussade et fort préoccupé personnellement de sa nouvelle situation, ne lui répondit point, et, s'étendant comme pour dormir, tourna le nez à la muraille. Alors, l'enragé gamin s'en prit au pauvre monsieur Florent. « Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, vous ?» lui demanda-t-il assez brutalement. « Ma foi, je le demanderai à mes juges, » répondit assez bas monsieur Florent, que tout ce verbiage éclatant paralysait. « Je n'ai point conspiré, moi. Je suis un ami de la liberté et des droits de l'homme. » Alors ce sacré petit Cazot éclata de rire. « Eh bien, mon vieux, lui dit-il, votre compte est bon et vous ne l'avez pas volé. »« Qu'est-ce que je n'ai pas volé ?» implora monsieur Florent avec un soupir. « Expliquez-vous, votre rire m'effraie. Croyez-vous que nous ayons quelque chance d'échapper au supplice ?»« Aucune !» rugit le petit Cazot. « Aucune, cher monsieur !»« Je n'ai jamais fait de mal à personne !» « On fait toujours du mal à quelqu'un, monsieur, quand on n'est pas royaliste. »« À qui donc ?»« À la France, monsieur. » Monsieur Florent baissa le nez. Il ne lui manquait plus que d'être enfermé avec ce jeune forcené qui remplissait la prison de ses déclamations effroyablement compromettantes. Imitant l'exemple du baron Daskoff, il se tourna lui aussi du côté de la muraille et fit le simulacre de se laisser aller au sommeil. Quelques minutes plus tard, comme les geôliers apportaient une méchante soupe aux prisonniers et une cruche d'eau, le sacré petit Cazot reprit ses discours jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Monsieur Florent agonisait littéralement, et il crut que le moment de mourir était réellement arrivé, quand la porte du cachot fut ouverte et poussée contre le mur avec une brutalité qui le fit sursauter. Dans cette triste nuit de la prison, à peine éclairée d'une flamme vacillante, apparut une haute et longue silhouette toute ceinturée de rouge, à laquelle une autre silhouette, épaisse et courbée, donnait des « Monsieur le commissaire inspecteur » à tour de bras. C'était le directeur Talbot qui faisait visiter sa prison à Monsieur Hilaire, lequel, usant de ses pleins pouvoirs, avait fait lever monsieur le directeur pour qu'il l'accompagnât dans sa ronde nocturne. Monsieur Hilaire se disait averti par le comité de l'hôtel de ville d'une entreprise d'évasion destiné à sauver le Subdamoun et son complice Askov, et il tenait à rassurer le comité dans la nuit même. Monsieur Florent grelottait, comme si l'on eût été en décembre. Il soulevait avec peine un buste fléchissant, tandis que le baron d'Askov, toujours allongé sur sa paillasse, avait tourné la tête du côté de « Monsieur le commissaire inspecteur », lequel mâchait des cacahuètes et en laissa tomber négligemment trois sur le nez du baron. Trois cacahuètes, dans le langage du roi du bagne, cela veut dire « tout va bien ». Askov, renseigné et étonné tout de même que Chéri Bibi agit avec une pareille sûreté de moyens et une aussi rapide audace, se retourna face au mur, après avoir déclaré qu'en ce qui le concernait personnellement, les paroles de M. Gazot ne le dérangeaient nullement, et qu'au contraire, elles le distrairaient d'autant plus, ajouta-t-il, que monsieur a la voix extrêmement prenante. M. Florent, interrogé à son tour, ne put réussir qu'à claquer des dents. « Cet homme a la fièvre !» exprima M. Hider. À cette voix, M. Florent sursauta et retomba à genoux. Il venait de reconnaître M. le commissaire inspecteur. Il s'accrocha à son habit comme un homme qui se noie s'accroche à une branche du rivage. « Tiens, M. Florent, qu'est-ce que vous faites ici ?» L'ex-marchand de papier à lettres éleva au-dessus de sa tête branlante des mains suppliantes. « Monsieur Hider, vous qui me connaissez, vous savez bien que je suis incapable de rien entreprendre qui ne soit parfaitement honnête, et ce n'est point pour avoir écrit à la Gazette des clubs qu'il n'y avait de salut que dans les droits de l'homme. » Monsieur Florent ne put en dire davantage. Le directeur de la prison entraînait déjà Monsieur Hider. « C'est un fou !» disait Talbot en refermant lui-même le cachot. « Ils sont quelques-uns comme ça qui ont la maladie de l'échafaud. » Chapitre 27. Dans le cachot du Subdamoun. Après être sorti de chez Askov, le commissaire inspecteur, M. Hider, demanda à voir le Subdamoun. Alors, toujours suivi de ses porte-clés, Talbot se dirigea avec Hider du côté du cachot du commandant Jacques. Il fit écarter les 25 gardes civiques qui veillaient dans le couloir, tout hérissés de nouvelles grilles énormes. On avait mis à la disposition du Subdamoun une table et une chaise. C'est là qu'il se tenait, les coudes sur la table, dans une attitude de méditation insondable, pendant des heures et des heures. Il ne leva même point la tête au bruit qu'ils firent en entrant. Ils restèrent tous deux quelques instants à contempler cette immobilité. À quoi cet homme pensait-il? Qu'attendait-il? Espérait-il encore? Son esprit n'était-il point anéanti par la chute formidable de ce qu'il avait conçu et si fragilement édifié? Songeait-il simplement qu'il allait mourir? Au cours de cette longue instruction, que l'on faisait tramer dans le dessein d'offrir à la plèbe révolutionnaire une corbeille pleine des plus belles têtes de la réaction républicaine, agrarienne et nationaliste, il avait laissé tomber quelques rares paroles qui disaient son détachement de tout. Ayant essayé une fois de disculper ses complices et de prendre tout l'événement à sa charge, et ayant constaté que ce noble effort n'aboutissait à rien de sérieux, il avait dit « Dans ces conditions, prenez ma tête le plus tôt possible et ne me demandez plus rien. » « J'ai besoin de parler aux prisonniers, » fit à voix basse le commissaire inspecteur à Talbot, « et de n'être entendu de personne. »« Contraire au règlement, » déclara tout de suite monsieur le directeur. Monsieur Hilaire tendit au directeur une feuille officielle sur laquelle celui-ci reconnut le timbre du comité et la signature de Coudry au-dessous de ces mots « Ordre à tout fonctionnaire de l'administration des prisons de faire ce que M. Hilaire, commissaire de la section de l'Arsenal, inspecteur général des prisons, croira devoir leur prescrire pour la sûreté des prisonniers et le bien de l'État. » Talbot réfléchit un instant et dit « C'est de la part du comité que vous devez parler aux prisonniers.
Si on vous le demande jamais, répliqua M. Hider, je vous conseille de répondre que vous n'en savez rien.
Entre nous, comme je vous sais dévoué à ces messieurs, je vous répondrai oui.
Mission secrète, relative à Hérisson, qui aurait été tâtée par le subdamoun, et peut-être Pagès. Comprenez-vous? Je sais que nous avons les mêmes ennemis, vous et moi, et j'ai confiance en vous. Mais, motus si vous tenez à votre tête.
Cependant, je ferai mon rapport demain matin.
Naturellement.
Je ne puis vous laisser parler au subdamoun sans le consigner.
Vous le consignerez.
Je vous avertis, continua le directeur, qui n'avait pas perdu toute méfiance,
qu'il y a une consigne sur laquelle je ne puis passer, car elle est formelle, celle-là, et le papier que vous me montrez ne la détruit pas.
Laquelle?
Celle qui ordonne à mes hommes de ne jamais perdre de vue, le jour et la nuit, le subdamoun.
Vous ai-je demandé de transgresser cette consigne-là?
Pourvu qu'on ne m'entende pas, c'est tout ce que je demande. Gardez vos responsabilités, je prends les miennes.
Cette rapide conversation avait été tenue à voix basse sur le seuil du cachot. Le subdamoun, en effet, devait rester constamment sous l'œil de ses gardiens. Talbot fit reculer les 5 gardes civiques jusqu'au fond du cachot et demeura là avec eux. Il fit signe à M. Hiller qu'il pouvait se rapprocher du prisonnier. Talbot, qui était bien décidé à ne pas perdre un geste des 2 hommes, vit le commissaire inspecteur se pencher sur le prisonnier et lui murmurer quelques mots qui semblèrent produire un certain effet. Le subdamoun releva vivement la tête, dévisagea son interlocuteur, jeta un regard du côté où grouillaient les gardes et le directeur, et dit tout haut ces mots qui furent entendus.
« Ah, c'est vous, monsieur Hiller, commissaire de l'arsenal ?»«
Je suis ici en qualité d'inspecteur général des prisons, » fit la voix claire de monsieur Hiller.
« Mes compliments, » répartit le subdamoun. « La République vous réussit, à vous. »
Ils n'ont pas l'air très amis, se disait pendant ce temps le sieur Talbot. La conversation commence mal. Voyons la suite. Il sera bien malin s'il lui tire quelque chose. Cependant, M. Hiller n'avait pas l'air démonté par ce premier résultat plutôt négatif. Il dit encore, et M. Talbot put l'entendre. Depuis le commencement de l'instruction, vous vous conduisez de telle sorte, monsieur, que vous vous faites le plus grand mal à vous et à vos amis. Libre à vous de vous perdre, mais songez que, si vous vous montriez plus raisonnable dans la conduite de votre affaire, des êtres qui vous sont chers pourraient vous en remercier. Monsieur, je viens vous trouver de la part du comité de... » À partir de ces mots, M. Talbot n'entendit plus rien. M. Hiller, cependant, continuait de parler, mais très bas.
« Commandant, je suis venu pour vous sauver. Les fonctions dont je suis investi, je ne les ai demandées que pour vous servir, vous et les vôtres. On vous a fait savoir que Madame la Marquise et Mademoiselle Lydie étaient en sûreté. Elles sont en sûreté chez moi, dans ma cave. J'ai sur moi une lettre de Madame la Marquise que j'ai emportée dans l'espérance de vous la remettre moi-même. Ce soir, c'est impossible, mais cette lettre, je trouverai le moyen de vous la faire parvenir demain. Vous y verrez que Madame la Marquise et Mademoiselle Lydie sont en parfaite santé et qu'elles vous conjurent d'avoir la plus grande confiance en moi et de faire tout ce que je vous dirai. S'il en est ainsi, vous serez libre avant 3 jours. Le plan qui vous fera sortir d'ici a été mûrement réfléchi. Il est simple. Monsieur Talbot est décidé à faire évader 2 bandits de droit commun, Garot et Manol, que nous avons gagnés à notre cause et qui s'évaderont une autre fois. Vous prendrez donc la place de ces bandits et leurs effets, et ce sera le directeur de la prison lui-même qui vous mettra dehors. Soyez donc prêt au moindre geste, à la plus petite indication qui vous viendra de moi. » Sans doute le discours de M. Hiller avait-il fini par émouvoir le subdamoun, car M. Talbot vit soudain le prisonnier quitter cette attitude d'inattention qu'il avait affectée jusqu'alors.
sortir sa tête pâle d'entre ses mains et ses lèvres remuées. Le subdamoun parlait donc. Monsieur Hilaire avait réussi à entrer en conversation. C'était un résultat, cela. Le subdamoun avait répondu. Toutefois, la réponse ne semblait pas du goût de monsieur Hilaire. Tout cela, monsieur, est très beau, mais je ne m'évade point. Que voulez-vous dire? Avez-vous pensé, monsieur, à tous mes amis que j'ai entraînés à Versailles et qui m'ont suivi jusqu'ici? Pouvez-vous les sauver, eux?
Eh, vous savez bien que c'est impossible.
Vous voyez donc bien que je ne puis m'évader. Comment avez-vous pu croire qu'après les avoir menés à la défaite, je les lâcherais au moment de mourir? Monsieur, je vous remercie de ce que vous avez fait pour ma mère et pour ma fiancée. Continuez de les protéger, Dieu vous récompensera. Dites-leur que je penserai à elles jusqu'à la dernière minute et que je m'efforcerai de me montrer digne sur l'échafaud du nom des touchés. Dites tout cela à ma mère, monsieur, et à ma fiancée. Elles pleureront, mais elles me comprendront et elles me pardonneront.
Elles mourront,
répondit simplement monsieur Hilaire, qui avait de grosses larmes dans ses bons yeux.
Mourrait-elle moins si j'étais un lâche? Répliqua le subdamoun d'une voix sourde, et les coudes sur la table, il se replongea la tête dans ses mains. Monsieur Hilaire pouvait s'en aller. Ce qu'il fit.
Eh bien? Lui demanda Talbot en le reconduisant jusqu'à la porte de la cour. Êtes-vous content?
Ma foi, non, avoua M. Hilaire, et je crois bien que ceux qui m'ont envoyé n'auront point non plus lieu de l'être. Ce subdamoun est plus entêté que l'on ne saurait dire.
Quand il se retrouva sur le quai de l'horloge, M. Hilaire regarda autour de lui. La nuit était sombre et maussade. Il pleuvait. Il remonta vers la terrasse déserte d'un débit de vin. Il n'y était point depuis 5 minutes qu'un pauvre vieux marchand de cacahuètes venait bien humblement lui proposer sa marchandise. M. Hilaire, sans doute par pitié, lui acheta un cornet de quelques sous.
« Eh bien ?»
souffla Chéri-Bibi.
« Eh bien, il n'y a rien de fait, il refuse de s'évader. Il ne veut pas qu'on le traite de lâche. Il mourra avec ses camarades. Il m'a chargé de dire cela à sa mère et à sa fiancée. »
Le pauvre vieux marchand de cacahuètes devait être décidément tout à fait malade, car il eut à peine tendu son cornet de papier au client de la terrasse qu'il s'avala sur le trottoir comme une masse. Le client se précipita sur lui et le souleva avec peine, et apparemment non sans émotion. Il lui murmurait à l'oreille des syllabes qui firent que le malheureux rouvrit enfin les yeux dans le moment qu'un monsieur, fort bien mis, et qui se garantissait de l'onder avec un parapluie, passait. Ce monsieur s'arrêta pour demander d'une voix fort pitoyable la raison pour laquelle ce pauvre marchand de cacahuètes avait glissé sur le trottoir.
« Ce doit être le besoin, » répondit monsieur Hilaire.
Alors le passant fouilla dans sa poche et tira de son porte-monnaie un billet de 10 francs qu'il remit à monsieur Hilaire.
« Faites-lui prendre quelque chose de chaud et de réconfortant, »
exprima le monsieur en s'en allant. Alors, Chéri Bibi revint tout à fait à lui et lui cria «
Merci, monsieur Limier, Dieu vous le rende !»
Chapitre 28 La cour des Néo-Girondins. L'accumulation des détenus politiques dans la conciergerie n'avait permis l'isolement que pour certains d'entre eux. Et encore, il n'y avait que le subdamoun qui fut seul dans sa cellule. Les autres étaient au régime commun, et dans la journée, se rencontraient et se voyaient presque librement dans la cour, qui était en quelque sorte au centre des cachots politiques. Cette cour impressionna singulièrement M. Florent, avec son aspect de cloître, ses murs jaunis, au pied desquels se promenaient les gardes civiques, le fusil chargé sur l'épaule, baïonnette au canon. Sa table de pierre et sa fontaine, autour de laquelle, sur des chaises de paille, toute une société de jolies femmes, têtes nues, faisait cercle avec des grâces héroïques d'autrefois. À l'époque qui nous occupe, les prisonniers pouvaient approcher ces dames librement. Hommes et femmes, à l'heure du plein air, se trouvaient ainsi mêlés. Et les malins qui avaient commencé par s'étonner de cette aimable tolérance avaient fini par en conclure que c'était là un stratagème pour exciter à la conversation. Ils étaient persuadés, en effet, qu'ils ne cessaient dans leur prison d'être surveillés et que leurs moindres propos étaient rapportés par des espions à l'abominable Talbot. Pendant les premiers jours, chacun et chacune s'était donc tenu sur ses gardes, dévisageant les visages inconnus et se méfiant d'une parole même amie. Mais cette contrainte ne tarda pas à paraître insupportable à tous, et ce fut la belle Sonia elle-même qui incita ses invités et invités, eux, à s'entretenir aussi librement dans son cercle de la conciergerie que dans son salon du boulevard Pereire. Quand M. Florent mit pour la première fois le pied dans cet endroit sélect, il y avait déjà 8 jours qu'il était enfermé. Une fièvre intense l'avait retenu sur son grabat. Askoff, lui, n'y manquait jamais et rapportait à M. Florent des nouvelles qui n'étaient point bonnes. C'était en vain que le comité de salut public, de la présidence duquel Pagès avait donné sa démission, avait voulu faire entendre des paroles de modération au comité de surveillance. C'est en vain que ceux qui restaient de l'Assemblée nationale, essayant de se ressaisir et de réagir contre le torrent de cette fureur vengeresse, suppliaient Coudry et ses hommes de ne point recommencer les erreurs du passé. Coudry, acclamé par toutes les sections, était en passe de devenir le maître de Paris, et Paris, déjà, se dressait contre Versailles. Enfin, pour couronner ce sinistre tableau, le baron avait encore glissé à l'oreille de M. Florent qu'il était fort possible que, pour calmer l'opinion publique, le gouvernement de l'Hôtel de Ville, comme on commençait déjà à l'appeler, imita les fameux massacres de septembre. « Ah, mon Dieu !» avait soupiré M. Florent en claquant de la mâchoire. « Les massacres de septembre, est-il possible ?»« Bah !» avait philosophé le baron. « Que l'on meure d'un coup de pique ou du coup près, c'est toujours à peu près la même chose, allez !» L'ennuyeux est de mourir quand on tient encore à la vie. M. Florent tenait encore à la vie. Le baron d'Ascoff y trouvait aussi bien des charmes, surtout depuis qu'il avait revu la belle Sonia, et que son amour pour cette magnifique créature avait pris des proportions quasi héroïques au milieu des circonstances dans lesquelles il se développait. Ascoff était tout étonné de n'être pas encore dehors et de n'avoir pas revu l'envoyé de Chéribibi, ce commissaire-inspecteur qu'il avait contribué si curieusement à faire nommer à ce poste par sa propre arrestation, à lui, Askoff. Le baron désirait ardemment d'être libre pour travailler à la délivrance de sa belle amie, qui lui avait fait du reste le plus tendre accueil. Mademoiselle Liskine ignorait toute la part que le baron avait prise dans la catastrophe commune, mais l'eût-elle connue qu'elle lui eût pardonné quand même? N'avait-elle point pardonné à la Vaubourg, qui les avait tous livrés? « Vous avez commis un crime, mon ami, » avait-elle dit à son amant. « Mais c'est un crime d'amour. Baisez-moi la main. » La Vaubourg s'était jetée sur cette main, avec mélancolie. Askos l'avait prise avec passion. Quand M. Florent pénétra dans la cour, la société y était brillante. Ces dames et leurs cavaliers jouaient à la main chaude. La Tiffonie, Lucienne Driss, Yolande Théry, dont les amants avaient déjà passé devant le tribunal révolutionnaire ou allaient porter leur tête sur l'échafaud, toutes ces belles maîtresses de la République, en attendant leur tour de manifester publiquement leur courage, s'essayaient dans le particulier à montrer une indifférence joyeuse pour le destin qui les attendait. Dans le moment, c'était la Vaubourg qui était à genoux devant Sonia, la tête enfouie dans sa jupe, une main ouverte dans le dos. Et cependant que ces dames s'amusaient à donner à la Vaubourg, ainsi aveuglée, de grandes claques dans la main, le baron d'Ascoff, penché sur le cou nu de la belle Sonia, semblait moins lui parler de près que l'embrasser derrière l'oreille. La moitié des détenus étaient amoureux de Mademoiselle Liskine, et avant que de grimper au tribunal, d'où on les voyait rarement redescendre, ils lui envoyaient des poulets qu'on lisait en commun et qui faisaient agréablement passer une heure ou deux. Depuis 2 jours, on s'amusait bien d'un monsieur Save, qui avait été, comme monsieur Florent, incarcéré pour avoir envoyé aux journaux les plus avancés des articles extrêmement violents, ornés de toute la rhétorique des anciens montagnards. Comme tant d'autres, monsieur Save était tombé amoureux de la belle Sonia, et il ne le lui avait point caché. « Hélas, madame, avait-il tout de suite ajouté, car c'était un galant homme. Mes amours ne sont point dangereuses. Ayant passé toute ma vie dans les livres, elles sont purement littéraires. Ainsi ai-je aimé madame Roland, la belle Lucille, Thérésa et leur compagne. Ainsi vous ai-je aimé, madame, vous qui leur ressemblez tant par le cœur et par l'esprit et qui les dépassez par la beauté. » La Tiffonie, Lucienne Driss et Yolande avaient applaudi monsieur Save, et celui-ci avait trouvé encore des galanteries à leur adresse, renouvelées de ses lectures. « Mesdames, leur avait-il dit, amusez-vous, vous ne vous amuserez jamais autant que vos aînées françaises. Ah, si j'avais seulement ici mes mémoires de madame Elliot, vous verriez comment on s'amusait au Carme, à la conciergerie et ailleurs. » Et cela vous donnerait peut-être l'audace, ajouta-t-il avec quelque malice et clignant des yeux, et vous inciterait à d'autres jeux que ceux de la main chaude, des quatre coins et de Colin Maillard. On traita M. Save de vieux polisson, et il n'en fallut point davantage pour qu'il fît une démarche aux fins de prêter certains livres qu'il avait chez lui à Mademoiselle Sonia Liskine. Il demanda que son guichetier fût autorisé à aller lui-même, en une heure de loisir, les réclamer à sa femme de ménage. Cette prière fut transmise hiérarchiquement à monsieur le directeur Talbot, lequel en fit part aussitôt à monsieur le commissaire inspecteur. « Je trouve, déclara monsieur Hilaire en fronçant ses augustes sourcils, je trouve à cette demande une allure des plus louches. Une pareille préoccupation de lecture, dans un moment où monsieur Save et cette dame Liskine vont passer devant leur juge, ne cacherait-elle point quelque entreprise dont nous pourrions ne pas avoir entièrement à nous féliciter? Je ferai la commission moi-même, et je verrai bien de quoi il retourne. » Monsieur Talbot donna raison à monsieur Hilaire, et c'est ainsi que le lendemain, qui est le jour qui nous occupe, monsieur Florent vit entrer dans la cour monsieur le directeur et monsieur Hilaire lui-même, qui passa tout près de son ancien ami et n'eut point l'air de l'avoir même aperçu. Mais monsieur Hilaire portait sous le bras un volume qui attira tout de suite l'attention de l'ex-papetier. À l'aspect de cette reliure noisette, usée et sale, et de certains gaufrages spéciaux de son invention, le sang de monsieur Florent, comme on dit, ne fit qu'un tour. Monsieur Hilaire portait maintenant le livre à la main, et monsieur Florent allongea le cou pour voir s'il n'apercevait point sur l'une de ses faces cette étiquette rouge qui avait été sa gloire à lui, Florent, pendant plus de 20 ans, et sur laquelle on lisait « Cabinet littéraire des Francs-Bourgeois ». Mais cette étiquette, il ne la découvrit point, et sans doute l'avait-on gratté. Ah, s'il pouvait être sûr que ce livre lui avait été dérobé, peut-être, avant de mourir, aurait-il la consolation d'apprendre le nom du misérable qui avait, pendant des années, pillé sa bibliothèque circulante sans qu'il pût le soupçonner jamais et qui avait fâcheusement empoisonné ses dernières années de commerce et de littérature. Comme il en était là de ses angoisses et de ses hésitations, M. Florent reçut un coup au cœur en apercevant M. Save, son ancien client, qui pénétrait dans la cour en saluant ces dames. M. Talbot appela M. Save et lui dit que M. le commissaire inspecteur s'était rendu lui-même au domicile du prisonnier, avait visité sa bibliothèque, qui était d'un goût déplorable et digne de la confiscation. Cependant, il avait eu tout de même la bonté de lui rapporter l'un de ses volumes qu'il avait parcouru et qui avait trouvé grâce devant lui. Monsieur Save pouvait donc prêter ce livre à ces dames pour leur distraction. Pendant que monsieur le directeur parlait et que monsieur Save l'écoutait, monsieur Hilaire, toujours ceinturé de sa magnifique écharpe rouge, s'avançait vers la belle Sonia et, après l'avoir saluée, lui remettait le livre en disant « Vous voyez, madame, que nous ne sommes point des tigres. Amusez-vous bien pendant qu'il en est temps encore, et lisez vite, car ni vous ni moi ne sommes maîtres de l'heure. » « Je vous remercie de la précaution, » répondit Sonia en souriant, « et je vous promets de ne point perdre de temps. » Aussitôt, elle ouvrit le volume et lut tout haut le titre, d'une voix qu'elle essaya d'affermir, mais qui tremblait un peu. « Mémoire sur la Révolution française, par Madame Elliott, traduit de l'anglais par le comte de Bayon, avec une appréciation originale de Sainte-Beuve. » Évidemment, ce n'était point ce titre qui faisait trembler la voix de la belle Sonia, mais bien ce qu'elle pouvait lire au-dessous et qui y avait été collé. Lettre des comités contre-révolutionnaires de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, de Lille, de Nancy et de Tours, au commandant Jacques du Touchet, prisonnier des ennemis de la nation. Nul, à l'exception de la Vaubourg et du baron d'Ascoff, ne s'était aperçu de cet émoi. Monsieur Hilaire avait entraîné monsieur Talbot et monsieur Save lui-même dans le fond de la cour, et là, leur tenait des propos qui devaient être fort intéressants, mais que l'histoire de la seconde terreur française n'a pas enregistré. Quant à monsieur Florent, il était moins préoccupé par la lectrice que par la reliure. Il avait reçu une nouvelle commotion à l'énoncé du titre, et il ne doutait plus que ces mémoires qui avaient figuré dans sa bibliothèque ne fussent à lui. Ah, s'il eût pu avoir le livre en main, ne fût-ce qu'une seconde. Tout doucement, il se glissait du côté du groupe qui faisait cercle autour de Sonia. Mais alors, il arriva que le baron d'Ascoff se détacha de ce groupe et vint à lui avec une grande affectation d'amitié. Il lui serra la main. « Vraiment, monsieur Florent, mon cher compagnon de chaîne, comment vous êtes-vous décidé à sortir, monsieur Florent ?» Monsieur Florent essayait de résister au baron, qui, en même temps qu'il l'étourdissait de son verbiage, l'entraînait dans une galerie. Mais Ascoff ne le lâchait pas. Monsieur Florent finit par lui dire « Écoutez, monsieur, il ne s'agit point de tout cela, mais du livre. » « Ah, il s'agit du livre. Et de quel livre ?»« Mais du livre que monsieur le commissaire inspecteur a rapporté de chez monsieur Save sur les indications de ce peu délicat personnage. »« Vous connaissez donc monsieur Save, monsieur Florent ?»« Si je le connais, il a été client de ma bibliothèque circulante pendant plus de 20 ans. Et je vois bien, hélas, que de nombreux volumes de ma bibliothèque ont cessé de circuler. » « Monsieur Florent, vous avez de l'esprit. » « Je ne sais point si j'ai de l'esprit, mais je voudrais bien avoir mon livre, que mademoiselle Liskin me le passe seulement un moment, et je saurais bien lui prouver que ces mémoires de madame Elliott sont à moi. » « Si vous avez vraiment de l'esprit, monsieur Florent, » déclara brusquement et sur un ton étrange le baron, « vous comprendrez qu'il ne faut pas insister pour avoir ce livre, monsieur Florent. » « Et pourquoi donc ?» demanda monsieur Florent interloqué. « Parce que je n'aime point les mouchards, » répliqua le baron en prenant monsieur Florent aux épaules et en le regardant d'une façon terrible. Persuadé qu'il avait fait une impression redoutable sur monsieur Florent, le baron se détourna alors du pauvre homme et regagna le petit cercle que Sonia et ses amis faisaient au centre de la cour, tandis que les autres prisonniers se promenaient autour d'eux. Sonia parcourait rapidement les feuillets collés de la lettre au commandant Jacques, lettre qui commençait ainsi. « Commandant, la France n'a plus d'espoir qu'en vous, et cependant nous venons d'apprendre que vous avez refusé d'user du seul moyen d'évasion qui pourrait vous sauver. Vous n'en avez point le droit, commandant. » À ce moment, un certain brouhaha et un important murmure qui s'élevait au fond de la cour attirèrent l'attention générale. On détourna les yeux du côté de ce tumulte, et alors Sonia vit s'avancer, parmi la foule des prisonniers qui accouraient pour le mieux voir, le subdamoun lui-même. Il était d'une pâleur de cire. On eût dit un Lazare sortant du tombeau. Mais dans cet aspect funèbre, il avait conservé ces admirables lignes du visage, qui sont la marque du plus ferme et du plus noble caractère. Hélas, il ne pouvait plus avoir que la volonté de cacher au profane le désespoir d'une âme écrasée par un trop lourd destin. C'est en vain que Talbot, l'épaule appuyée à un pilier de la galerie qui le protégeait de son ombre, guettait chez cette illustre victime la manifestation passagère de la plus petite défaillance. Dans le morceau de pain qu'il avait rompu à son petit déjeuner du matin, le commandant Jacques avait trouvé, sur une infime parcelle de papier, la phrase qui lui avait dicté sa conduite. Il ne douta point que tout ceci ne tendît à rien moins qu'à le faire revenir sur la volonté qu'il avait de ne se prêter à aucune tentative d'évasion. Mais, par respect pour sa mère, il fit ce qu'elle lui demandait. Sonia s'était levée en l'apercevant, et son émotion était telle que la belle artiste était devenue, pour le moins, aussi pâle que lui. Elle eut à son intention son premier et triste sourire. Leurs regards se croisèrent, et la vie de l'amour revint, en un instant, apporter des couleurs aux belles joues de la captive. Elle ne fut point maîtresse de l'élan qui la jeta vers lui et presque dans ses bras. Dans ce moment, il comprit qu'il avait eu pour cette adorable femme autre chose qu'un caprice coupable. Et il s'avoua le crime qu'il commettait en aimant Sonia. Pauvre Lydie, n'était-elle donc plus aimée? Qui donc eût pu le prétendre, ou tout au moins l'affirmer? Nous touchons là au mystère du vaste cœur des hommes, sollicité par deux objets également aimables, mais si absolument différents qu'on peut lui trouver, à ce cœur et surtout en temps de révolution, des excuses d'apprécier pleinement la vertu de l'un sans avoir le courage de rejeter la séduction de l'autre. Ils ne surent d'abord que se dire, et leur trouble eût appris leur secret à un enfant. Heureusement que le baron d'Ascoff était là pour sauver la situation. Il protesta avec une joie bruyante du plaisir de tous à revoir le subdamoun. Il affirma que depuis le premier jour, il ne manquait que Jacques pour qu'on pût se croire à l'une de ces petites fêtes intimes de l'hôtel du boulevard Pereire, fêtes qui n'avaient rien perdu de leur charme pour avoir été transportées jusque dans l'antichambre de l'échafaud. « L'échafaud ? » murmura Jacques. « C'est vrai. « Mes pauvres amis, me pardonnerez-vous ?»«
Nous vous remercions !» s'écria ainsi devant. « Nous vous remercions, car il n'était plus possible de vivre dans cette abominable époque. »«
Ce n'est pas à nous à vous pardonner, » interrompit encore Sonia. Et elle ajouta à mi-voix, « Ceux qui ont besoin du pardon l'ont déjà reçu, par mes soins et en votre nom. » Ce disant, elle lui désignait le malheureux Lavaubourg, qui faisait une bien pitoyable mine dans son coin. Le subdamoun n'hésita point. Il s'avança vers lui et lui tendit la main. Lavaubourg accueillit ce geste amical sans enthousiasme, car il eût oublié facilement toute l'horreur de sa propre traîtrise politique pour ne se souvenir que d'avoir été trompé par cet homme qui lui pardonnait. « Allons, Lavaubourg, » dit Jacques. « Nous allons tous mourir, tous comparaître bientôt devant notre seul juge. Pardonnez-moi comme je vous pardonne. » Lavaubourg fit signe de la tête que c'était une chose entendue. Sonia fit asseoir Jacques près d'elle et, persuadée qu'aucune des paroles échangées n'échappait aux oreilles de la police privée de M. Talbot,
elle prit soin de compter, avec une coquetterie légère et négligente, l'emploi de son temps en ces longues heures de captivité. Nous lisions les mémoires de Madame Elliott. C'est épouvantable et charmant. Tenez, commandant, à vous de lire. Moi, je suis fatiguée. Et elle lui remit le volume, en adressant au subdamoun un coup d'œil qui le mit tout de suite en éveil. Il comprit qu'il tenait entre ses mains le mystère qui le poursuivait depuis le matin. Il ouvrit le livre, négligemment, et sut ne marquer aucune surprise quand ces lignes lui sautèrent aux yeux. « Commandant, la France n'a plus d'espoir qu'en vous, et cependant nous venons d'apprendre que vous avez refusé d'user du seul moyen d'évasion qui pourrait vous sauver. Vous n'avez pas le droit, commandant. » Il lut tout haut un passage. « Plus loin, fit Sonia, j'ai déjà lu cela. » Et se penchant vers lui, lui faisant sentir sa chaude haleine, le frôlant de son bras nu, elle feuilleta les pages. Et encore ces lignes passèrent sous les yeux du commandant. « Si vous le voulez, commandant, rien n'est perdu. Vous pouvez encore sauver la France. » Et plus loin, « Vous n'avez pas le droit de vous refuser. Vous n'avez pas le droit de déserter dans la mort. » Plus il lisait et plus il était troublé, plus il se sentait faiblir dans sa sinistre résolution. À la fin, il comprit que la véritable lâcheté serait de ne point tenter le suprême combat. Sonia fixait sur lui des yeux ardents où la Vaubourg et Askoff ne virent que de l'amour. Seulement, si la Vaubourg ne s'en montra qu'accablé, Askoff sentit monter en lui le flot de la haine et d'une impitoyable jalousie. Jusque sur les marches de l'échafaud, ce frère qui la borrait venait lui voler les sourires et les regards de Sonia. Dans le moment que le baron croyait l'avoir reconquise, Jacques n'avait eu qu'à se présenter pour qu'elle lui échappât encore. Jacques referma le volume et le tendit à Sonia, qui retint à la fois entre ses mains le livre et la main de Jacques. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » lui demanda-t-elle, avec une intention certaine dans le regard. Askoff ne voyait plus que ses doigts qui se frôlaient, que ses mains qui se prenaient, et, fou de rage, ne se maîtrisant plus, il allait se jeter sur le livre et le leur arracher des mains comme une brute, quand il fut devancé dans ce mouvement par l'intervention bien inattendue d'un prisonnier, auquel certainement personne ne pensait plus. C'était M. Florent, que le sentiment de la propriété et de son juste droit avait poussé jusque-là, et qui, s'étant emparé du bouquin, proclamait d'une voix rauque « Ce livre est à moi, je le garde !» Toute la compagnie, stupéfaite et bien naturellement offusquée, s'était levée. Mais ceux qui, comme Sonia et les subdamoun, et aussi comme M. Hilaire, connaissaient tout le prix de ce livre, ne purent s'empêcher de trembler d'effroi. M. Hilaire était accouru derrière M. Talbot, lequel, ne comprenant rien à ce qui se passait, exigeait des explications immédiates. M. Florent ne se fit point faute de lui en donner. « Monsieur le directeur, ce livre est à moi et je le prouve. Il appartenait à ma bibliothèque circulante. Je l'ai cherché pendant des années et je comprends maintenant comment je le retrouve ici, puisque je vois dans cette cour mon ancien client, Monsieur Save. » Mais déjà, Monsieur Save était sur Monsieur Florent et tentait de lui arracher le livre. « J'ai acheté cet ouvrage !» s'écriait Monsieur Save avec toute l'indignation outrancière de la mauvaise foi. « Je l'ai acheté de mes deniers et je vous défends de me traiter de voleur. »« La preuve que vous êtes un voleur !» tempêta Monsieur Florent. « Je vais vous la donner. Il y a dans ce livre une grande tache de café au lait que je saurais bien retrouver. » Et Monsieur Florent allait ouvrir les mémoires de Madame Elliott devant tout le monde et découvrir ainsi ce que nous pouvons appeler le pot aux roses. Quand Monsieur Hilaire allongea la main à son tour et prétendit lui aussi à s'emparer du volume. « C'est moi qui ai apporté ici cet ouvrage. Je le remporte, » fit-il plus ému qu'il ne le voulait paraître. Quant à Sonia, elle défaillait, et il lui fallut s'asseoir, quand elle vit le livre échapper aux mains tendues de M. Hilaire pour aboutir à celle de M. Talbot. C'était M. Florent qui faisait ce beau coup-là. « Tenez, monsieur le directeur, tenez, regardez vous-même si elle n'y est pas, la tache de café au lait. » Et cette fois, il ouvrit le livre, le feuilletant hâtivement. M. Hilaire était blême. Le subdamoun, prêt déjà à recevoir ce nouveau coup de la fatalité, avait croisé les bras. Ascoff ricanait. Les quelques personnages qui avaient pu voir ou deviner par-dessus l'épaule du lecteur et de la lectrice une partie du mystère avaient le cœur étreint par une indicible angoisse. Encore une seconde, et la supercherie allait être découverte. Soudain, une porte claqua, et une voix de stentor résonna dans la cour. « Appel des accusés devant le tribunal révolutionnaire !» Et le premier nom jeté par cette voix terrifiante fut celui de M. Florent. M. Florent, qui allait tourner la page, s'abattit comme une masse. « C'est bien fait !» dit M. Save. Mais aussitôt le nom de M. Save ayant retenti après celui de M. Florent, il chancela à son tour et dut s'agripper à M. Talbot pour ne point tomber. M. Talbot, pour se débarrasser de M. Save, tendit le livre à M. Hilaire, qui le mit dans sa poche. Maintenant, on ne se souciait plus du livre. Le directeur lui-même l'avait oublié. Il s'occupait, après avoir secoué frénétiquement M. Save, qui ne voulait point le lâcher, de faire jeter un seau d'eau fraîche sur la figure congestionnée de M. Florent, puis de faire aligner contre le mur les malheureux qui allaient être conduits au tribunal. M. Florent, sous la douche, était revenu à lui. On avait fini de le relever assez brutalement, et cependant que tout ce pauvre monde, destiné au bourreau, prenait de gré ou de force le chemin qui conduisait au tribunal, l'ancien libraire s'efforçait d'expliquer aux guichetiers et aux gardes civiques qu'il était victime de la plus déplorable erreur. On avait beau lui dire de se taire, il ne voulait rien entendre. Il finissait même par crier comme un sourd, malgré les coups de crosse, et cela sous prétexte qu'à cause de sa timidité, il lui serait impossible tout à l'heure de prononcer un mot devant les juges. Dans la cour, Mademoiselle Liskine, revenue d'une forte émotion et se sachant loin des regards de Talbot, qu'Hilaire venait d'entraîner, Sonia s'était rapprochée du subdamoun et reprenait. « Voyez, mon ami, votre devoir est tout indiqué, et je suis stupéfaite que vous ayez attendu jusqu'à ce jour pour le comprendre. « J'ai cru tout perdu, murmura-t-il, et je n'ai point voulu vous quitter, vous, personnellement, après vous avoir amené jusque-là. « Ne vous occupez point de moi, je vous en conjure, fit-elle en lui serrant furtivement les mains. « Je ne m'en irai point cependant d'ici sans vous, affirma-t-il. Je vous prendrai pour un enfant si une telle considération pouvait vous arrêter en chemin. C'est que je vous aime, Sonia. Mon Dieu, gémit-elle. Et elle s'arrêta une seconde, car la vie semblait s'être arrêtée en elle, tant l'accent de cette voix l'avait frappée au cœur. Jamais il ne lui avait dit « Je vous aime ». « Taisez-vous, murmura-t-elle. Craignez de commettre un sacrilège. » « Et il n'y a point de pire sacrilège que de mentir à l'amour. Je vous dis la vérité, Sonia. C'est vous que j'aime. »« Ah, le bourreau peut venir, » fit-elle en fermant les yeux. « Le bourreau, » fit-il, « qu'il vienne donc, et laissez-nous mourir tous les deux. »« Quittez ces lieux, » lui répondit-elle. « Il n'est pas possible que ces choses durent, et elles cesseront tout de suite si le subdamoun le veut. » « Soyez libre, Jacques, promettez-le-moi, jurez-le. »« Oui, » fit-il, « c'est promis, je serai libre pour vous délivrer. »